vagabonde.
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 Bonjour à tous. Notre vagabonde du jour va se fondre dans les paysages.
Vagabonde, bonjour à toi.
Pour bien comprendre ce qui se joue dans le paysage, et après avoir donné à entendre que nous avions été chassés du paradis, voyons voir comment les poètes s'inscrivent dans la nature quand elle n'est pas paradisiaque. Il faut un état des lieux. Le plus extravagant à ce jour est celui de Michel Butor, grand écrivain qui a attaché son nom au nouveau roman en 1957 lorsqu'il a publié La Modification. Michel Butor, disparu en 2016, a écrit une trentaine d'ouvrages poétiques dont ce magnifique historique du paysage. On écoute « Le monde s'écroule et nous survivons ».
Michel Butor, « Le monde s'écroule et nous survivons ». Mais le monde n'est-il pas, n'était-il pas déjà fini depuis longtemps? Depuis des années, des dizaines d'années, depuis des siècles, des millénaires, des millions d'années? Les ammonites et bélemnites n'avaient-ils pas disparu, rejoints par les lépidodendrons et sigillaires, puis les brontosaures et pteranodons, les mégathériums, et les mastodontes, les drontes et les pigeons passagers, dont John James Audubon déclare avoir vu un vol de 1 115 136 000 en 1813 près de Louisville, Kentucky, massacrés au cours du 19e siècle par des industriels qui voulaient les exploiter commercialement et dont le dernier spécimen connu est mort aux eaux de Cincinnati, Ohio, en 1914. Depuis longtemps déjà enfouis Akkad et Sumer, Babylone et Memphis, Teotihuacan, Tikal et Tiahuanaco, rejoints par tant d'instaurations anciens, moyens et nouveaux empires, décadences, invasions, démembrements, avec pillages, dévastations, incendies, démantèlements, enlèvements, supplices, exécutions, tant de sombres papes, sinistres empereurs, horribles évêques, affreux paysans, effroyable chevalier, épouvantable marinier et moine terrifiant, avec les sécheresses, les déluges, les glissements de terrain, les avalanches, les éruptions, les raz-de-marée, les tornades, les naufrages, épaves, échouages, inondations, envasements, ensablements, enfouissements, avec les migrations, colonisations, humiliations, transplantations, occupation, déportation, aliénation, tant de généraux des grenouilles scorpions, de commentateurs de pillage, tant de colonels des moustiques frelons, de visiteurs de dévastation, tant de commandants de tanks cafards, de présentateurs d'incendies, tant de capitaines des pestes fureurs, de commandeurs de démantèlement, tant de lieutenants des ulcères cancers, d'inspecteurs d'enlèvement, tant de commissaires des grêles gangrènes, de contrôleurs de supplices, tant de militaires sauterelles murennes, de vérificateurs de ténèbres et d'assassinats. Parmi les balbutiements, éducation, initiation, installation, maturation, vieillissement, décrépitude, agonie, ruine, vestiges, cadavres, ossements, fossiles, traces, les réflexions, les explorations, les méditations, les explications, les inventions, les improvisations, les mutations, et les nuages qui changent, comme les vagues qui changent, comme les forêts qui changent, comme les villes qui changent, comme les rêves qui voyagent, comme les nuages et les astres qui survivent dans la précarité, comme nous.
Autre constat du poète marocain Kamal Zerdoumi, né en 1953. Le poème s'appelle « Victime ».
Notre terre, corps meurtri fait de beauté défigurée et de la poussière de nos morts d'arbres abattus exécuté dans les forêts d'où fuit le chant d'où l'oiseau, étouffé par les tronçonneuses, d'hémorragie de pétrole et d'océan en deuil, de requins à la dérive qui rougissent le silence des eaux. Notre terre, à l'air irrespirable, dans le poison des villes, à la nature inaccessible comme un rêve lointain que le citadin amnésique n'ose plus faire. Notre terre, que l'orgueil luciférien transforme en enfer.
Par ces deux poèmes, on découvre que le paysage est une partie intégrante de nos vies. Même si nous ne voyons plus ceux qui nous entourent, ce qu'on dit paysage familier.
Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons nous habite. Ce qui nous entoure nous constitue. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes toujours, déjà, disséminés dans tout ce à quoi nous nous lions. Il n'y a pas de vide. Tout est habité. Nous sommes chacun d'entre nous le lieu de passage et de nouage de quantités d'affects, de lignées, d'histoires, de significations, de flux matériels qui nous excèdent. Percevoir un monde peuplé non de choses, mais de forces, non de sujets, mais de puissances, non de corps, mais de liens.
Ceci est extrait d'une affiche du Comité Invisible. Inutile de présenter ce comité sur le plateau de Mille Vaches, mais dans ce petit texte, il est évident qu'un paysage n'est pas qu'un paysage à la manière dont les touristes d'aujourd'hui les mettent en ligne sur les réseaux sociaux pour que tous leurs amis en profitent. Non, un paysage, c'est le lien qui unit plantes et territoires, hommes et bêtes, dans la quête d'une vie meilleure. Écoutons ce paysage de Théophile Gautier qui ravirait tous les touristes du monde.
Pas une feuille qui bouge, pas un seul oiseau chantant, au bord de l'horizon rouge, un éclair intermittent. D'un côté, rare broussaille, sillon à demi noyé, pan grisâtre de muraille, saule noueux et ployé. De l'autre, un champ que termine un large fossé plein d'eau, une vieille qui chemine avec un pesant fardeau, et puis la route qui plonge dans le flanc des coteaux bleus, et comme un ruban s'allonge en minces plis onduleux.
On se prend à rêver qu'un paysage ce ne soit que ça. Un peu de bleu dans le lointain, une colline, un personnage pour donner l'échelle, et ensuite, c'est selon, une rivière qui serpente, une mer bleutée berçant quelques voiliers qui se déplacent, une montagne qui nous invite en son sommet. Mais chaque paysage est un lieu de vie, un enjeu de lutte, un équilibre entre l'homme exploiteur des sols, des sous-sols, et la faune et la flore en mouvement qui s'y déploient provisoirement. On va écouter Jean Grosjean, poète du XXe siècle, mort en 2006. Ce poème, extrait du recueil La lueur des jours, on jurerait que quand j'étais jeune.
On jurerait que quand j'étais jeune, saison et récolte duraient davantage. Septembre régnait. Une grand-mère assise au bord du chemin donnait une allure de légende aux bourdons qui virevoltent dans la dorure de l'atmosphère, aux sauterelles qui jaillissent d'une herbe exténuée, aux papillons qui se perchent sur les scabieuses. Le maître allait et venait dans la souveraineté d'une sorte de mutisme efficace, car personne ne faisait grand-chose et tout se faisait. Le vent passait entre nous avec des murmures d'approbation. On voyait le ciel dans les branches et une des dernières hirondelles très haut. Quelqu'un brûlait des épines et la fumée se mêlait à la senteur du soir. Juillet était loin avec ses coquelicots sur le basalte. On en avait cueilli quelques-uns pour les mettre dans un verre. Ils avaient été étonnants. Leur frêle taffetas rouge frémissait déployé autour de leurs étamines noires. Maintenant, ce qui est loin, ce sont tous ces parents que nous avions. Je les regardais s'occuper de leurs projets indéchiffrables. Ils se levaient chacun à son heure, murés dans leurs décisions. Ils parlaient peu, ils mangeaient peu. Un fond de bol de cancoyote ou une barre de chocolat lombard. Les uns toujours debout, toujours allant par pré ou par bois, les autres ne quittant guère l'ombre de leurs portes ou les rougeoiements de leurs fanons. Et les pommes que les uns rapportaient, les autres les faisaient sécher par quartier, en guirlande, sous les combles.
Radio Vassivière.
Vagabonde.
On va repartir vers de nouveaux paysages avec un immense poète suisse, traducteur de Homère, Ungaretti, Goethe, Hölderlin, Rilke et bien d'autres. Il a publié une cinquantaine d'ouvrages. Il s'agit de Philippe Jacoté, né en 1925. On écoute Dans la montagne.
Dans la montagne, dans l'après-midi sans vent, et dans le lait de la lumière, luisant aux branches encore nues des noyers, dans le long silence, le murmure de l'eau qui accompagne un instant le chemin, l'eau décelable de ses fétus brillants, à ses éclats de verre dans la poussière, sa claire et faible voix de mésange apeuré.
On continue avec un autre immense poète, né à Tours en 1923 et mort en 2016, Yves Bonnefoy. À partir de l'âge de 12 ans, il allait en vacances pour l'été chez ses grands-parents dans le Lot. Émerveillé par le climat et les paysages arides, il a fait là l'expérience de l'exil qui a profondément imprégné le garçon qu'il était. Il avait deux pays, deux patries en quelque sorte. Deux origines très différentes. Il s'est en quelque sorte dédoublé. Cette disposition de l'esprit l'a conduit naturellement chez les surréalistes à l'âge de 20 ans. Ensuite, il a fait son chemin de poète à travers une cinquantaine d'ouvrages. Nous allons écouter Le livre pour vieillir.
Étoile transhumante et le berger voûté sur le bonheur terrestre. Et tant de paix comme ce cri d'insecte irrégulier qu'un dieu pauvre façonne. Le silence est monté de ton livre vers ton cœur. Le vent bouge sans bruit dans les bruits du monde. Le temps sourit au loin de cesser d'être. Simples dans le verger sont les fruits mûrs. Tu vieilliras et te décolorant dans la couleur des arbres, faisant ombre plus lente sur le mur, étant et dame enfin la terre menacée, tu reprendras le livre à la page laissée. Tu diras, c'était donc les derniers mots obscurs.
Khalil Gibran, 1883-1931, est un poète et peintre libanais qui a vécu les trois quarts de son existence à New York. Son livre le plus célèbre, Le Prophète, composé d'aphorismes et de paraboles, redécouvert dans les années 60 par la génération hippie, est un des livres les plus vendus sur la planète au XXe siècle. On écoute un gentil poème sur la fleur et l'abeille.
Allez à vos champs et à vos jardins, et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de butiner le miel de la fleur. Mais c'est aussi le plaisir de la fleur de céder son miel à l'abeille, car pour l'abeille, la fleur est une source de vie, et pour la fleur, une abeille est une messagère d'amour. Et pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir le plaisir sont un besoin et une extase.
Magnifique lien qui unit la fleur et l'abeille dans un plaisir réciproque. Car si nous sommes au monde, nous le devons à une femme fleur et un homme butineur. Nous avons des besoins, des désirs, des manques, et nous devons nous souvenir de cette éternelle quête de vie sans saccager le monde qui nous entoure. Les animaux, dans leur variété et leur diversité, sont capables de cohabiter sur un même territoire. Sauf l'homme. L'homme s'approprie. On va parler d'une poétesse d'aujourd'hui, une native, comme disent les Québécois. Elle est de la tribu des Innus et a publié plusieurs ouvrages en langue française. Voilà ce que dit Rita Mestocochó, née en 1966, de la langue française. Le français n'est pas la langue de ma mère, mais le destin l'a mise sur ma route. Et nous nous sommes apprivoisés. Nous nous sommes tellement apprivoisés que j'ai choisi de l'adopter. Ce ne fut pas un choix difficile, car elle vit dans mes pensées, quand le partage se fait sentir. On écoute un peuple sans terre.
Quand la lune sera pleine et que le soleil sera rouge, on verra alors sur la plaine un homme faisant brûler de la sauge. Sa peine sera immense comme la mer, car il aura vu la terre disparaître sous ses pieds. Les hommes machines l'auront dévoré les premiers pour en faire une nouvelle cité. Là où l'entraide et le respect n'existeront pas, tu piétineras mon enfant, mais tu le fais déjà. Ta soif d'ambition et de grandeur nous tuera. Malgré tout cela, mon esprit survivra. Tant que le soleil brillera au-dessus de nous et que les rivières seront débordantes d'énergie, tu entendras nos rires les plus fous qui te poursuivront dans ton rêve maudit. N'enlève pas à la terre son souffle dernier, permets à notre mère de respirer et de voir ses enfants courir à bout de souffle dans la nature qui est ma protégée.
On va encore plus loin avec une autre native du Québec. Née au début des années 60, Margaret Sam Cromarty, de la tribu des Cree. Cree s'écrit C-R-E-E, c'est une prononciation à l'anglaise, car ces Amérindiens vivent dans le Grand Nord canadien, près de la baie James, et sont anglophones. On écoute Terre verte.
Certains disent que ce siècle moderne est le meilleur, d'autres en doutent. Un jour, ma mère raconta une histoire. Manifestement intéressée, je l'écoutais. Elle parlait d'un autre temps si lointain. Impressionnée, je me suis assise en silence. Je ressentis une joie sans nom. Elle parlait de mon héritage, les bois, la vie sauvage, l'avenir de mes enfants. Soudain, mal à l'aise, j'ai senti la peur m'envahir. Mon héritage était menacé. Mes enfants trompés étaient déchirés par les loups d'une civilisation étrangère.
Sans Rita Mestocochó et Margaret Sam Cromarty, on pourrait se dire, Les espaces du Grand Nord canadien sont si vastes qu'il y a de la place pour tout le monde. Hélas, il y a vraiment une guerre de civilisation qui se joue là. Les Amérindiens pensent que l'homme n'est que de passage et qu'il doit rendre à la nature ce qu'il lui a emprunté pour vivre. Ainsi, la faune, la flore et les paysages se perpétuent de génération en génération. Et nous, nous savons que l'homme occidental creuse, entaille, détruit, détourne, élève des barrages, saccage au nom de l'utilité, de la rentabilité et laisse des zones poubelles partout. Nous savons aujourd'hui que, comme par les siècles passés, les Amérindiens perdent la bataille car les tribunaux eux-mêmes sont inféodés au libéralisme économique. Si on ajoute le poème de Kamal Zerdoumi, on comprend que le poème de Michel Butor, « Le monde s'écroule et nous survivons », est une sorte d'oracle pour les décennies à venir. Si ces poétesses amérindiennes nous montre comment l'homme agit sur le paysage, alors changeons le point de vue et écoutons avec Paul Verlaine, qu'on ne présente plus, comment l'homme invente un paysage quand il aime. Clair de lune.
Votre âme est un paysage choisi que vos charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leurs déguisements fantasques, tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau, sveltes parmi les marbres. Radio Vassivière.
Vagabonde. Souvent, derrière la divine Sélénée, la nuit attend que sa lueur s'efface pour reprendre ses droits. Jules Supervielle, 1884-1960, nous aide à y voir plus clair. On écoute « Attendre que la nuit ».
Attendre que la nuit, toujours reconnaissable à sa grande altitude où n'atteint pas le vent, mais le malheur des hommes, vienne allumer ses feux intimes et tremblants et dépose sans bruit ses barques de pêcheurs, ses lanternes de bord que le ciel a bercées, ses filets étoilés dans notre âme élargie. Attendre qu'elle trouve en nous sa confidente, grâce à mille reflets et secrets mouvements, et qu'elle nous attire à ses mains de fourrure, nous, les enfants perdus, maltraités par le jour et la grande lumière, ramassés par la nuit poreuse et pénétrante, plus sûr qu'un lit sûr sous un toit familier, c'est l'abri murmurant qui nous tient compagnie. C'est la couche où poser la tête qui déjà commence à graviter, à s'étoiler en nous, à trouver son chemin.
Quand les nuits sont de velours, on pense au mois d'août. Bien des cœurs ont chaviré en attendant les étoiles filantes. Anna de Noailles, une des rares poétesses surréalistes mortes en 1933, nous rappelle que, sous nos climats, la chaleur est une douceur.
Chaleur. Tout luit, tout bluit, tout bruit. Le jour est brûlant comme un fruit que le soleil fendille et cuit. Chaque petite feuille est chaude et miroite dans l'air où rôde comme un parfum de reine Claude. Le soleil, comme de l'eau, pleut sur tout le pays, jaune et bleu.
Musique. Et si les nuages arrivaient ? Paul Éluard nous en touche deux mots.
Je te l'ai dit pour les nuages. Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer, pour chaque vague, pour les oiseaux dans les feuilles, pour les cailloux du bruit, pour les mains familières, pour l'œil qui devient visage ou paysage, et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur, pour toute la nuit bue, pour la grille des routes, pour la fenêtre ouverte, pour un front découvert. Je te l'ai dit, pour tes pensées, pour tes paroles, toute caresse, toute confiance se survive.
Avant de terminer, on va essayer de calculer, j'ai bien dit calculer, le paysage que Vénus Kourigata, poétesse libanaise née en 1937, veut nous faire imaginer avec son poème « La surface d'un automne ».
La surface d'un automne est inversement proportionnelle à la hauteur de sa tristesse. Le nuage interrogé multiplie sans difficulté le basilic par le safran. Répète après moi. La distance entre deux pluies se mesure par arpent de silence et le périmètre d'un mois est divisible par un rayon de lune. Cela va de soi.
On termine avec Victor Hugo. On ne le présente pas non plus, Victor Hugo. Dans un paysage, à chaque instant, il se passe quelque chose. Alors, promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Mince, il y est. Voici Au bois de l'écrivain francophone le plus célèbre au monde.
Nous étions, elle et moi, dans cet avril charmant de l'amour qui commence en éblouissement. Au souvenir, au temps, heure évanouie, nous allions... Le cœur plein d'extase inouïe, ensemble dans les bois et la main dans la main, pour prendre le sentier, nous quittions le chemin, nous quittions le sentier pour marcher dans les herbes. Le ciel resplendissait dans ses regards superbes. Elle disait « Je t'aime » et je me sentais Dieu. Parfois, près d'une source, on s'asseyait un peu. Que de fois j'ai montré sa gorge aux branches d'arbres, rougissante et pareille aux naïades de marbre, tu baignais tes pieds nus et blancs comme le lait. Puis nous nous en allions rêveurs. Il me semblait, en regardant autour de nous les pâquerettes, les boutons d'or joyeux, les pervenches secrètes et les frais liserons d'une eau pure arrosée, que ces petites fleurs étaient tous les baisers tombés dans le trajet de ma bouche à ta bouche pendant que nous marchions. Et la grotte farouche et la ronce sauvage et le roc chauve et noir, envieux, murmuraient « Que va dire ce soir, Diane, aux chastes yeux, la déesse étoilée, en voyant toute l'herbe au fond du bois foulé ?»
Après avoir commencé par un état des lieux plutôt sinistre fait par Michel Butor, après avoir senti que la dégradation des paysages sur Terre touchait tous les continents, sous toutes les latitudes, nous terminons sur un paysage amoureux, composé par Victor Hugo. Souvenons-nous que si nous ne prenons pas soin de la nature, des paysages, si nous les laissons à la voracité des producteurs et des exploiteurs, ce poème de Victor Hugo, Au bois, deviendra une œuvre à encadrer et accrocher dans les musées de la ruralité.